La gavotte de la troisième partita pour violon en mi majeur, la BWV 1006 de Jean-Sébastien Bach, ici dans une transcription pour piano. Zlata Kokieva en était l'interprète. L'oratorio de Noël a été interprété pour la première fois durant les fêtes de Noël de l'année 1734, au rythme donc d'une cantate par jour pendant 6 jours. Bach les faisait exécuter à l'église Saint-Thomas, puis à l'église Saint-Nicolas en alternance. On les jouait chaque dimanche ou lors des jours de fête, le matin à la grand-messe, puis une nouvelle fois l'après-midi aux vêpres. Cette pratique était courante en Allemagne à cette époque, comme le relève Gilles Cantagrel, grand spécialiste de Bach, qui la compare aux fameuses Abendmusiken ou veillées musicales qu'un certain Buxtehude donnait à Lübeck les 5 dimanches qui précédaient Noël. Bien avant Bach, Buxtehude avait lui aussi composé des oratorios en différentes parties qui toutefois forment un tout. Oratorio dont Bach semble donc se souvenir lorsqu'il s'attelle à l'écriture de son propre oratorio de Noël. Un extrait de la cantate Das Neugeborene Kindlein, le nouveau-né, une cantate pour soprano, haute contre, ténor, basse, 3 violons et basse continue de Dietrich Buxtehude. Nous l'écoutions ici dans l'interprétation de l'ensemble Richard Carr. L'oratorio de Noël raconte ainsi une seule et même histoire, le récit de la nativité. Mais Bach, sans modifier la chronologie du récit, s'amuse à multiplier les éclairages pour en livrer une interprétation aussi personnelle qu'empreinte de modestie. Dans la première des cantates, le compositeur raconte l'histoire biblique de la naissance du Christ. L'empereur Auguste ayant imposé à la population de répondre à un recensement, Joseph et sa fiancée Marie, enceintes, doivent se rendre à Bethléem. Le texte suit le couple de son départ de Nazareth jusqu'à la naissance de Jésus, leur premier enfant. Malheureusement, ce soir-là, toutes les auberges sont débordées et le couple ne trouve pas à se loger. Marie donne naissance à l'enfant dans une étable. La deuxième cantate change de point de vue et s'intéresse aux bergers. Trompettes et timbales disparaissent et cèdent la place aux flûtes et aux hautbois. Sur les collines avoisinantes, des bergers gardent leurs troupeaux. C'est à eux que l'archange Gabriel, envoyé par Dieu, révèle la nouvelle. Un enfant est né, non loin de là, et repose dans une crèche. Bach installe immédiatement l'auditeur dans une ambiance de bergerie, grâce à la prédominance d'un rythme de pastoral et une instrumentation particulière dans laquelle les hautbois, hautbois d'amour et hautbois de chasse, occupent une place privilégiée. L'évangéliste précise aux bergers qu'ils trouveront un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Il appelle les anges à jubiler et à chanter. Es waren Hirten in derselben Gegend. Il y avait des bergers dans cette même contrée. C'est la deuxième partie de l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, écrite pour le deuxième jour, le 26 décembre. Cantate dont le thème est l'Annonciation aux bergers. Jordi Savall en était ici l'interprète à la tête du Concert des Nations et de la Capella Reial de Catalogne. La troisième partie de l'oratorio, Herrscher des Himmel, Herr Lallen, Roi du Ciel, écoute nos indignes prières, est écrite donc pour le troisième jour de Noël, le 27 décembre. Les bergers ont trouvé la crèche et adorent le nouveau-né. Dans cette cantate figure le seul air original de l'oratorio de Noël. Il est écrit pour la voix d'alto, et même si aucun nom de personnage ne lui est attribué, il est pensé pour Marie. Il débute par ces paroles « Renferme mon cœur ce doux miracle » qui donne le ton de cette méditation de Marie sur l'idée du souvenir inoubliable ancré dans son cœur. Schlaf in mein Liebster genieße der Ruhe, l'air de Marie, tiré de la troisième partie de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Jordi Savall était ici à la tête du concert des Nations avec en soliste Raphaël Appé. La quatrième partie de l'oratorio de Noël est chantée le 1er janvier et se rapporte à l'épisode de la circoncision. L'évangéliste n'intervient qu'une seule fois pour rappeler que 8 jours après sa naissance, l'enfant de Marie fut circoncis et qu'on le nomma Jésus. L'ensemble de l'effectif participe à l'élaboration d'une musique joyeuse. Puis les deux dernières cantates de l'oratorio de Noël reposent sur l'histoire des rois mages, qu'elle raconte avec force de trompettes et de timbales dans une joyeuse exaltation. Bach n'a certes pas choisi le découpage de son oratorio en 6 parties, mais il est troublant de constater qu'il l'a souvent pratiqué quand il s'est agi de regrouper des partitions d'importance en recueil. Prenez par exemple les concertos brandebourgeois, il y en a 6. Il y a également 6 suites pour violoncelle seul, 3 sonates et 3 partitas pour violon seul, ce qui fait donc 6. L'ensemble des cantates est organisé en 2 groupes de 3. La première partie se focalise sur la nativité proprement dite, avec la crèche, les bergers et les anges. Les 3 autres sont plutôt voués à la louange du nom de Jésus et au roi mage. Chaque partie est caractérisée par un instrumentarium différent, créant un climat spécifique, avec toutefois des rappels qui établissent des symétries. Les parties 1, 3 et 6 utilisent par exemple la même tonalité et un effectif orchestral sensiblement pareil, dans lequel trompettes et timbales dominent. Bach met en œuvre toute une symbolique sonore qui mériterait à elle seule une émission entière. L'obsession du chiffre va même chez lui bien au-delà. Il n'y aurait qu'une seule sinfonia instrumentale. Bach l'aurait ajouté sans doute par souci de porter à 64 le nombre de numéros de l'oratorio et de ce fait accéder à la perfection. Les 2 pièces chorales posées à chaque extrémité de l'œuvre donnent une idée du chemin parcouru. La première d'entre elles exalte la joie suprême, celle en qui toute crainte est dissipée. La dernière est également un choral où semble s'opposer la jubilation des parties instrumentales à la fermeté des lignes vocales. Le texte chanté est d'une violence incroyable, même si le ton est calme. Il y est question de vengeance contre les ennemis, de briser sans ménagement le mal, la mort, le diable, le péché et l'enfer. Puis la dernière phrase est proférée, qui explique tout le projet. La naissance de Jésus redonne à l'homme la dignité qui lui fut confisquée par la faute d'Adam. Nun sei dir wohlgehochen, le choral qui referme l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, la sixième partie pour l'épiphanie. Nous l'écoutions ici dans l'interprétation de Jordi Savall à la tête de la Capella Real de Catalogne et du Concert des Nations. Quelques notes de la première suite pour violoncelle sol, suite en sol majeur de Jean-Sébastien Bach, ici interprétée par Jean-Guyen Queyras, pour refermer cette aventure au cœur de l'oratorio de Noël. Je remercie Mathieu Lutolf qui signe la réalisation de cette proposition de Catherine Buzer. Et ensemble, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël. Vous écoutez Espace 2, il est 17h30.
Bazar, Sébastien Pache.
Tiens, c'est qu'il faut ouvrir. Le moment de tourner la pancarte, comme dans les bistrots ou dans les échoppes. Vous avez cet écriteau réversible qui indique ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Il s'agit de pas se tromper, montrer la bonne face pour inciter le chaland à s'arrêter, même si c'est juste pour guigner, pour guguer. Ils sont mystérieux ces panneaux, parce que, je sais pas vous, mais j'ai le sentiment qu'on voit jamais personne les tourner, et pourtant, il n'y a pas d'électronique derrière. C'est en dur, en vrai, c'est de l'ardoise, du contreplaqué ou du plastique. Il faut bien une main pour faire la rotation bicotidienne, l'ouverture et la fermeture. Ça fait la même impression que quand on voit pas le facteur passé, ou le paysagiste passer la tondeuse. On se sent presque un peu trompé, c'est bête, hein. On a fait quelque chose dans notre dos. Quelque chose d'utile, mais comme ça a été fait en notre absence, dans le feutré, on se dit que c'est louche. C'est curieux aussi que la personne qui tourne la pancarte affiche « fermé » pour elle-même lorsque son magase ouvre. Comme si elle libérait un accès pour les autres, mais qu'elle se livrait elle-même à un genre d'enfermement. Alors les oisifs pessimistes diront que ça a un nom, en fait, le travail. De la même manière, quand un endroit affiche fermé, c'est en dedans qu'il indique ouvert. Vous visualisez ? Comme pour libérer la patronne et le personnel, comme pour dire que tout ce qui s'y passe sera dissimulé à la clientèle. Et bah, c'est un peu pareil dans une chambre d'ado finalement. Dans Bazar, on fait un peu différemment. Sur notre pancarte à nous, c'est marqué deux fois ouvert. Une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Double mise en abîme du côté réversible de l'objet. Un peu par esprit potache et un peu pour pas faire comme il faut. Et puis, ouvert en verlan, c'est vers où ? Ça pose la question de la direction. Où on va, ça, on ne le sait pas toujours, mais vous êtes cordialement invités à vous y rendre avec nous.
Thank you.
Alors c'est le moment où on commence à apprendre à connaître les Sharks et les Jets, ces deux gangs ennemis qui se livrent une lutte sans merci, à mort, dans la comédie musicale West Side Story de Leonard Bernstein. On était dans le prologue avec, grâce à la production des années 60 qui a été portée au cinéma, une allusion à ce pas de danse typique de West Side Story, donc avec des petits pas de côté, très élégants, mais qui n'enlèvent rien au drame qui se profile à l'horizon. Nous entendions l'orchestre de Broadway, un orchestre ad hoc qui avait été monté dans les années 80 pour un projet un peu lyrique, d'une mise en CD de cette comédie musicale dirigée par Leonard Bernstein lui-même. Une lyrique parce que les solistes l'étaient. Dans le rôle de Maria, il y avait notamment Kiri Tekanawa et puis José Carreras interprétait Tony. Un José Carreras qui en prend un peu plein la tronche pendant les séances en studio parce que pour quelques raisons rythmiques et de prononciation qui ont été portés à la connaissance du grand public grâce à un making-of, un documentaire qui a été tourné pendant les séances studio. On apprend qu'il se fait un peu taper dessus par un Bernstein légèrement sur les dents. Bon, voilà. En parlant de prononciation et de langue de Shakespeare, d'ailleurs, nous écoutons à présent la musique de York Bowen, un compositeur londonien mais né en 1884, pianiste et compositeur. Nous entendons le deuxième mouvement de sa sonate pour violon et piano en mi mineur. Tasman Letter au violon avec l'accompagnement de Pierce Lane au piano dans le deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano mi mineur de York Bowen. Cet Anglais qui était pianiste a connu les deux guerres mondiales, a donc été mobilisé pendant la première en tout cas. Pianiste, vous allez me dire, il a aussi joué du fusil pendant la guerre et perdu un membre. Non, ce n'est pas ce genre d'histoire-là, c'est un peu plus doux, heureusement. Comme il était pianiste, musicien, bon, il s'est mis dans la fanfare militaire. Comme il jouait du piano, bah, il pouvait pas jouer du piano dans la fanfare militaire. Il a été incorporé dans les Scots Guard, au corps. Oui, il jouait du corps pendant son service. Chacun sert sa patrie à sa manière. Bazar le fait de 17h30 à 19h30 sur RTS Espace 2. Nous entendions Daniel Harding à la direction de la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême dans le troisième mouvement de la quatrième symphonie en mi mineur de Johannes Brahms. Quand il y a du triangle, forcément, c'est un peu joyeux. Oui, le triangle, c'est l'instrument de la joie ou de l'ennui aussi. Parfois, quand on joue du triangle et quand on joue peu du triangle, surtout. De la tendresse maintenant, de la tendresse au piano, parce que vous écoutez Bazar sur RTS Espace 2, un moment de la journée où on a besoin d'un peu de câlinade, qu'elle soit auditive ou digitale. François Chaplin au piano dans une œuvre de Carl-Philipp Emanuel Bach à l'origine pour orgue. C'était le deuxième mouvement de cette sonate en la majeur. Un trio vocal maintenant qui pourrait nous laisser croire que nous tombons dans une espèce de débauche. Un livret d'opéra grivois qui nous raconte des choses un peu olé olé parce que le texte dit « ach », mais c'est de l'allemand « ach, ah ». Nous reconnaissons notre culpabilité. Deux hommes, une dame, on se dit voilà, il y a eu faute, quelqu'un a fauté, il y a eu relation très partagée en l'occurrence, il y a eu échange, bref, on s'imagine tout plein de choses, on se monte un turbin un peu limite, sauf que nous allons vite nous calmer parce qu'il s'agit de la musique de Jean-Sébastien Bach. Oui, donc tout ce qu'il y a de plus luthérien, tout ce qu'il y a de plus protestant, ce sera sans les mains, mais avec le cœur.
Schmerz!